À la une, la libération de trois nouveaux otages dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Trois hommes, dont un franco-israélien, relâchés après 483 jours de captivité. Le gouvernement de François Bayrou va-t-il tomber la semaine prochaine? Le destin du Premier ministre est entre les mains des députés socialistes et Rassemblement national. En Calédonie, l'évolution des conditions météo. De fortes pluies attendues sur le nord du territoire dès aujourd'hui. L'épisode dépressionnaire devrait concerner le nord-est, les Loyautés et Bélep dans les prochaines heures. C'est le grand retour du vide-grenier sur la place des Cocotiers. À Nouméa, une première de l'année spéciale rentrée avec plus de 250 stands présents. Ce dimanche, c'est aussi la Chandeleur, la fête de la lumière, le jour de la présentation de Jésus au temple. Vous entendrez le père Roca Pikawa dans ce journal. L'actualité sportive du rugby, la suite du tournoi des Six Nations et la victoire de l'Irlande sur l'Angleterre, prochain adversaire du 15 de France. Et en Calédonie du Golfe, avec la deuxième journée de la Ryder Cup d'Eva ce dimanche, une vingtaine de participants sont en lice sur les greens de Bouraille. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'actualité internationale est à la une avec ces trois nouveaux otages libérés par le Hamas. C'était hier soir pour nous. Les trois hommes se portent relativement bien d'après l'armée israélienne. Ils ont passé 483 jours en captivité dans la bande de Gaza. Parmi eux, Ofer Calderon, un franco-israélien. Un autre homme libéré est le père des deux plus jeunes otages capturés le 7 octobre 2023. Ses enfants sont âgés de 2 ans et 5 ans. Ils sont encore retenus en otage dans la bande de Gaza. Le point avec Frédéric Simon pour Europe 1.
Concernant Yarden Bibas, son épouse Shiri et leurs deux enfants, Kfir, âgés de 10 mois seulement au moment de leur capture, et Ariel, qui avait lui 4 ans, avait été kidnappé, tout comme Yarden, au kibbutz Nir Oz le 7 octobre 2023. Mais depuis, aucun signe de vie de Shir Bibas et des enfants les plus jeunes des otages. Il y a une dizaine de jours, le porte-parole de l'armée israélienne reconnaissait que les inquiétudes étaient grandes concernant leur sort. Yarden Bibas en a conscience, il le sait depuis de longs mois, puisque ses ravisseurs avaient poussé la cruauté jusqu'à filmer sa réaction après lui avoir annoncé la mort probable de ses proches. Aujourd'hui, à sa libération, il semblait très éprouvé, naturellement, mais également soulagé de retrouver la liberté et de revoir ses parents et sa sœur. Il a même à plusieurs reprises esquissé un sourire. Émotion également pour Ofer Calderon, la scène des retrouvailles de ce franco-israélien de 54 ans avec ses quatre enfants a ému tout Israël. Deux des enfants d'Ofer Calderon avaient été pris en otage et libérés en novembre 2023. Quant au troisième des otages libérés aujourd'hui, Keith Seagal, israélo-américain de 65 ans, il est apparu très amaigri, très pâle au moment de sa libération, mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude particulière.
Et par ailleurs, les témoignages des otages israéliens déjà libérés rapportent qu'ils étaient retenus captifs dans des locaux appartenant à l'ONU, devant servir à abriter des réfugiés palestiniens. Des témoignages qui suscitent la polémique.
C'est essentiellement le témoignage de l'une des trois jeunes femmes qui ont été les premières, vous vous souvenez, à être libérées dans le cadre de l'accord actuel. Il s'agit d'Emily Damari a révélé qu'effectivement, pendant une partie de sa longue période de captivité, elle était retenue en détention dans les locaux de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, que les fonctionnaires de l'UNRWA savaient pertinemment qu'elle était retenue en otage dans ces locaux, mais qu'ils n'ont rien fait pour lui venir en aide. Elle s'en est plainte auprès du Premier ministre britannique dans une conversation téléphonique, puisque Emily Damari détient également la nationalité britannique. Alors, les récits des anciens et des anciennes otages se révèlent graduellement un petit peu au compte-gouttes. Il n'est pas impossible, il est même probable que dans les semaines, dans les mois qui viennent, d'autres révélations sur la collaboration d'une partie, en tout cas des fonctionnaires de l'UNRWA avec les terroristes du Hamas soient révélées. C'est une probabilité. On sait que des fonctionnaires de l'UNRWA avaient même participé, certains d'entre eux en tout cas, au massacre et aux offensives terroristes du Hamas le 7 octobre 2023.
Frédéric Simon, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Notez que le président français Emmanuel Macron s'est félicité de la libération d'Ofer Calderon. Il a également déclaré ne pas oublier l'autre otage franco-israélien toujours aux mains du Hamas. Notez que 183 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël dans le cadre de cet échange. L'actualité nationale, on vous le disait hier, la commission mixte paritaire est parvenue à se mettre d'accord sur une version commune du budget 2025. À partir de ce lundi, François Bayrou tentera de faire adopter le texte à l'Assemblée nationale. Sans majorité, le gouvernement pourrait dégainer le 49-3 et risque donc de faire face à une motion de censure. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, Catherine Vautrin, la ministre de la Santé et du Travail, qui défendra lundi soir également son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, tend la main au Parti socialiste. Le point avec Maïalène Trémollet d'Europe 1.
Catherine Vautrin joue carte sur table et s'adresse directement aux oppositions. Au lendemain des débats de la commission mixte parlementaire sur le budget, la ministre du Travail salue l'esprit de responsabilité des socialistes, affirme qu'ils ont été entendus et énumère les concessions faites par le gouvernement sur le budget de la Sécurité sociale. 1 milliard de plus pour les hôpitaux, la suppression des tickets modérateurs, c'est-à-dire certaines dépenses de santé à la charge du patient, ou encore l'augmentation de 200 millions d'euros d'un fonds d'urgence pour les EHPAD. Sur d'autres revendications du parti à la rose, comme l'augmentation du SMIC par exemple, Catherine Vautrin annonce l'ouverture d'une conférence de travail pour discuter des conditions de travail en France, dans la foulée du conclave sur les retraites, et se dit prête à revoir sa copie avec les forces de gauche. Autant d'annonces qui s'inscrivent dans la stratégie gouvernementale, celle du compromis permanent avec les oppositions, à 3 jours d'une motion de censure qui, si elle était votée par le Rassemblement national et l'ensemble du Nouveau Front populaire, ferait tomber le gouvernement Bayrou dès la semaine prochaine.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. J'ajoute que l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a appelé les socialistes et plus généralement la gauche à ne pas voter la censure. On écoute Lionel Jospin.
J'appelle, pour ce qui me concerne, les socialistes et même l'ensemble des forces de gauche à ne pas voter la censure.
Quel serait le péril ?
Il se passerait que l'administration ne serait plus dirigée. Dans la situation financière dramatique qui est la nôtre, il n'y aurait ni budget ni loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Qui pourrait faire face au drame de Mayotte ? Qui chercherait la réconciliation en Nouvelle-Calédonie ? Qui assurerait, veillerait à la sécurité ? Mais ça serait un pays non dirigé.
Voilà pour cette déclaration de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre qui s'exprimait sur France 5.
Vous écoutez Info Week-end, il est 7h08.
À la une en Calédonie, les dernières nouvelles de la dépression tropicale qui devrait nous concerner dans les prochaines heures. Sa trajectoire et les impacts sur le territoire semblent se préciser, Léo Fichot.
Le phénomène cyclonique évolue actuellement à l'ouest du Vanuatu, à 400 km de Port Vila, et doit se déplacer vers les îles Loyauté d'ici demain matin. La côte est sera également impactée avec de fortes précipitations, de fortes rafales de vent aussi qui vont commencer à se mettre en place dans la journée. Les précisions d'Edouard Pelot, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Effectivement, la dépression est à 400 km à peu près dans l'ouest de Port Vila. Et donc les scénarios la font incurver sa trajectoire vers le sud-est, voire l'est-sud-est. Et l'emmènerait dans 24 heures au nord d'Ouvéa et de Lifo. Toujours au stade, pour l'instant, de dépression tropicale faible, avec un petit risque qu'elle atteigne brièvement le stade de dépression tropicale modérée. Les conséquences, c'est que dès aujourd'hui, on le voit, il y a une dégradation du temps sur l'ensemble du territoire, mais les plus fortes pluies vont vraiment se concentrer aujourd'hui sur les Loyautés, qui sont le plus proche du phénomène. Elles pourront toucher de façon plus isolée la façade est. Les vents, on s'attend à renforcement des vents progressifs. Encore une fois, ce sont les Loyautés qui vont être le plus impactées cette nuit et demain, avec le phénomène qui va passer à proximité. Mais les vents seront également assez forts. On est en vigilance jaune pour des vents autour de 25 nœuds sur la façade est. Donc là, tout de suite, il n'y a pas énormément de vent, mais c'est en train de se renforcer, ça devrait se renforcer dans la journée.
Et avec l'arrivée de ce phénomène, une forte houle est également à prévoir sur les Loyautés ces prochains jours. Actuellement, comme le disait Edouard Pelot, 16 communes, toutes situées sur la côte est et les Loyautés, sont en vigilance jaune, forte pluie, orage et vent violent. Je rappelle qu'en raison des prévisions météo de la semaine prochaine, les rotations du Béthiccio des 3, 4 et 5 février sont annulées. La reprise des traversiers reste incertaine et le programme sera réajusté en fonction de l'évolution de la météo des prochains jours.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
À la une également ce dimanche, un rendez-vous très attendu des Nouméens. Depuis de longues semaines, le vide-grenier du centre-ville fait son grand retour sur la place des Cocotiers ce matin. Le top départ a été donné il y a quelques minutes seulement, Léana Colombo.
Et oui, on ne doute pas du succès de cette nouvelle édition, tant l'attente était grande. Pour preuve, tous les emplacements ont été réservés en seulement une demi-heure sur Internet. Et si le maintien du vide-grenier a été un temps remis en question en raison des conditions météorologiques incertaines, les exposants sont bien présents ce matin. Certains le sont même depuis 5 heures pour préparer au mieux leur stand. Écoutez.
Ça se passe très bien avec beaucoup de gens attendus, avec pas un très beau temps, mais quand même avec du monde, de la bonne humeur, une bonne organisation et puis on espère que ça va le faire.
Pour l'instant, je suis en train de mettre par catégorie pour la rentrée des classes. Donc je fais de 2 ans jusqu'à 14-16 ans, puis on installe ça sur des tables ou sur des portiques. Et puis après, on attend les clients.
Et vous l'attendiez, ce premier vide-grenier ?
Ah, tout à fait, oui. C'est quand même un moment où il y aura beaucoup de personnes. Et puis, ça pourra aider énormément de gens, autant pour nous que pour eux.
Ça fait toujours du bien de vider la maison, à petit prix.
Ça permet de rencontrer des gens et de pouvoir se débarrasser des choses qu'on n'a plus besoin.
250 exposants vous attendent donc jusqu'à 12h30 tout le long de la place des Cocotiers. L'occasion de faire de bonnes affaires avant la rentrée scolaire.
Il est 7h passé de 12 minutes. Une page de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. Et nous évoquerons tout d'abord la fête de lumière, la Chandeleur. À tout de suite.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flick Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flick Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flick Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite info week-end, Michael Juneski.
L'actualité religieuse, 40 jours après Noël pour le début du mois de février, c'est le moment de fêter la Chandeleur pour beaucoup, un jour synonyme de préparation des crêpes. Mais que fête-t-on exactement et pourquoi en cuisinant des crêpes? On fait le point sur les origines de cette fête avec vous, Léana Colombo.
La Chandeleur est une fête chrétienne qui rappelle la présentation de Jésus au Temple. Jésus qui est la lumière du monde, d'où ce nom de Chandeleur, explique le père Roch Apikawa, vicaire général du diocèse de Nouméa.
Dans d'autres églises, on peut écouter les récits de la présentation de Jésus au temple. C'est donc ce jour-là, la Chandeleur, qu'on va célébrer Jésus, lumière du monde. C'est parce que le prophète Siméon accueille l'enfant que Joseph et Marie présentent et le décrit comme la lumière d'Israël et la lumière des nations. Et c'est ce qui est célébré ce jour-là, c'est l'occasion pour les gens, les baptisés, de se dire qu'au jour de mon baptême, la lumière du Christ m'a été donnée. Et je me dois d'être lumière du Christ là où je vis tous les jours.
Et c'est une fête qui prend un sens particulier, notamment dans le contexte que vit la Calédonie actuellement.
La fête de la Chandeleur, c'est pas simplement faire bénir des cierges, c'est surtout l'occasion pour chaque chrétien de se dire à nouveau, quand on vient faire vivre la Chandeleur, c'est de se dire que je me dois d'être lumière du Christ là où je suis. Et en Calédonie, c'est pas peu dire que si chacun de nous essayons d'être lumière là où nous sommes, alors véritablement, nous fêterons la Chandeleur, le Jésus lumière du monde. Et évidemment, il y a des crêpes, il y a un folklore qui est là autour. Mais bon, le folklore est là simplement pour surligner l'idée que Jésus est la lumière du monde. Et lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, nous devenons nous-mêmes lumière pour ceux et celles avec qui nous vivons.
Alors vous l'avez compris, une fête qui célèbre donc l'arrivée de la lumière. Mais pourquoi mange-t-on des crêpes à cette occasion? Fabien est responsable de Crépite au Dumbéamol. Il nous explique l'origine de cette tradition et nous livre quelques astuces pour la fêter correctement.
Ah, les crêpes, mais en fait, ça, voilà, c'est aussi la période de l'année où les jours s'allongent. Donc, le retour de la lumière, les jours s'allongent. Et donc, pour fêter ça, on défilait, on faisait une petite procession aux chandelles. Et on faisait aussi les premières galettes, entre guillemets, avec la farine qui restait de l'année précédente. Je suppose que ce n'était pas les crêpes comme on les connaît au jour d'aujourd'hui, hein, c'était un peu plus simple. Mais voilà, c'était une forme ronde pour représenter le soleil, et puis la couleur jaune, ça faisait penser à la lumière. C'est pour ça qu'on faisait ces crêpes, donc, pour fêter ce retour à la lumière.
Alors, en tant que restaurant qui fait des crêpes, vous remarquez que les gens suivent la tradition ici pour le 2 février ?
Mais oui, quand même, il y a pas mal de gens qui la suivent. Et après, s'ils veulent vraiment s'apporter beaucoup de bonheur là, et beaucoup de sous pour l'année, alors il y a un petit truc, c'est qu'il faut faire sauter la crêpe donc à la maison dans sa petite poêle là, en tenant une pièce dans la main gauche. Et ouais, on fait sauter, donc on a la poêle dans la main droite, on fait sauter sa crêpe et si elle retombe bien, c'est beaucoup d'argent.
Et voilà, retenez bien l'astuce, une pièce dans la main gauche et on fait sauter la crêpe de l'autre et vous deviendrez riche. Pour ceux qui ne veulent pas risquer de salir leur sol ou leur plafond, le restaurant Crépite prépare spécialement pour la Chandeleur des paquets de crêpes à emporter.
Une nouvelle date pour l'ouverture totale de la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis, au Mont-d'Or. La date du lundi 10 février était annoncée vendredi par le Haut-Commissariat. Finalement, changement de programme, la route de Saint-Louis ouvrira totalement dès ce lundi 3 février. Pour rappel, la route traversant la tribu était bloquée au nord et au sud depuis le 20 juillet 2024 par deux verrous établis par la gendarmerie. Le premier forum du Livre blanc des quartiers populaires se déroulait hier au Sénat coutumier à Nouville. Les référents des quartiers ont pu échanger sur le thème du droit. Victor Gogny, porte-parole du Sénat coutumier, responsable de ce forum.
Ce droit, donc, il y avait à renseigner sur le droit civil coutumier. Il y avait également donc le droit commun, également décliner le droit au niveau des personnes qui habitent dans les quartiers, dans les squats. Le dernier, c'est le droit des personnes en difficulté. C'est des questionnements donc, que chaque personne devait donc, soulever. En fonction de cela, bon, ben, il y avait des intervenants et il y avait des présidents d'air. Hein. Les problématiques reviennent, hein. Donc, que ce soit sur le logement, sur le transport, sur la couverture sociale. Le droit, il est un peu pour tout le monde. On doit plutôt parler du rapport que l'on a soi-même avec le droit qui est là. Le droit, donc, il doit solutionner un petit peu les difficultés de chaque individu.
Victor Gogny, porte-parole du Sénat coutumier. Dans une déclaration finale, les participants appellent notamment à l'action des élus pour soutenir les initiatives et veiller à ce que les préoccupations des quartiers soient prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques. D'autres forums sur le Livre blanc des quartiers populaires seront organisés dans les semaines à venir. À la fin du mois, un nouveau forum sous l'égide du Sénat coutumier sera organisé sur le thème de l'économie sociale et solidaire.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
En bref, c'était hier la réouverture de la pêche aux crabes et aux picots, en province sud comme en province nord. On rappelle, comme chaque année, que leur pêche était interdite depuis 2 mois. Une réglementation mise en place pour permettre aux espèces de se reproduire afin de préserver la ressource. Rappelons qu'il est encore interdit de pêcher les huîtres de roche ou de palétuvier jusqu'à la fin du mois d'avril. Malgré une météo mitigée, hier, la première édition du Tropical Market a attiré de nombreux visiteurs sur les quais ferry à Nouméa. Un événement qui se poursuit aujourd'hui, Léana Colombo.
Chaque année, les exposants locaux tentent de se réinventer pour attirer le plus de visiteurs possible. Et c'est effectivement un pari gagnant pour ce marché où les Calédoniens peuvent flâner le long des quais tout en découvrant le savoir-faire des artisans locaux. Que cela soit des bijoux, des plantes, des vêtements ou même de la nourriture, tout y est concentré en un seul et même endroit pour le plus grand plaisir des visiteurs.
On vient faire un tour pour regarder un petit peu ce qu'il y a et acheter local. On a trouvé pas mal de choses. Un collier de perles pour la Saint-Valentin et on a réservé une chemise qu'on viendra chercher plus tard.
Là, on vient de chez
Sicorella.
On a pris des petits colliers glissants là pour hommes. C'est beau, hein, je suis passée tout à l'heure, c'est très beau.
Vous êtes venue en famille, je vois ?
Moi, ma mère et mon fils.
Avec papy, mamie.
On vient juste d'arriver. Et donc, c'est une très belle idée. Donc, on trouve ça très sympathique.
C'est bien, bien situé, c'est parfait. Puis voilà, il y a de l'animation. C'est peut-être une réussite par les temps qui courent.
Mais le Tropical Market ne se limite pas uniquement à la présence d'artisans locaux. C'est aussi des activités, des concerts et des initiations au sport. Les exposants seront encore présents toute la journée d'aujourd'hui, de 9h à 18h.
Il est 7h passé de 20 minutes. On marque une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actu sport.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite d'info week-end, c'est du sport, Michael Juneski.
Et à la une du sport, du rugby, avec le tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales Tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et après la victoire écrasante de l'équipe de France hier sur le Pays de Galles, l'Écosse affrontait l'Italie et l'Irlande recevait l'Angleterre, Léo Fichou.
Et après cette première journée, les Bleus sont donc en tête du classement de ce tournoi Destination à égalité de points avec l'Écosse et l'Irlande. Les trois équipes se sont imposées avec le bonus offensif. L'équipe de France, bien évidemment, avait écrasé le Pays de Galles 43-0 hier. Ce matin, l'Écosse a dominé l'Italie 31-19 grâce notamment un triplé de Jones avant que l'Irlande ne domine l'Angleterre 27-22 alors que les Anglais menaient au score jusqu'à la 52e minute de jeu. La semaine prochaine, deuxième journée de ce tournoi Destination, l'Italie recevra le Pays de Galles, la France ira défier l'Angleterre et l'Irlande sera en Écosse. Notez que chez les moins de 20 ans, l'équipe de France et Brent Liufau sont opposés au Pays de Galles ce matin. Le match a débuté il y a 11 minutes, le score est déjà de 7-0 pour les Bleus.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
On passe au football avec la suite de la 20e journée du championnat de France de Ligue 1.
Le Paris Saint-Germain a déroulé ce matin face à Brest. Victoire 5-2 grâce à un triplé d'Ousmane Dembélé et un doublé de Gonzalo Ramos. Je rappelle que les Brestois et les Parisiens s'affronteront de nouveau dans quelques jours en barrage de la Ligue des Champions. Dans la foulée, Monaco recevait Auxerre et après avoir été mené à la pause, les Monégasques ont inversé la tendance en seconde période pour l'emporter 4-2 avec là aussi un triplé du Danois Mika Biret. Et puis ça joue actuellement entre Lille et Saint-Etienne. C'est la 17e minute de jeu et les Stéphanois qui mènent 1-0 grâce à un pénalty dès la 6e minute de jeu.
On passe au tennis maintenant avec l'équipe de France qui dispute la Coupe Davis ce week-end.
Les Bleus affrontent le Brésil à Orléans et dominent pour le moment les débats. Hugo Humbert a apporté le premier point à l'équipe de France en battant le jeune Joao Fonseca 7-5-6-3 avant qu'Arthur Fils ne remporte le deuxième point face à Thiago Seboot-Wild 6-1-6-4. La nuit prochaine, place au double. En cas de victoire de Benjamin Bonzi et de Pierre Gerber sur la paire brésilienne, les Bleus seront qualifiés pour le prochain tour. Sinon, il faudra attendre les deux derniers matchs de simple disputés d'un côté par Hugo Humbert puis par Arthur Fils.
Un mot de sport de combat avec du MMA. Deux Français sur la carte principale de l'UFC Fight Night 250. Ça se passe en Arabie Saoudite.
Fares Ziab contre l'Américain Mike Davis et dans la catégorie des poids légers et Nassourdine Imavov contre la légende Israël Adesanya chez les poids moyens. Deux combats français donc et deux victoires ce matin. Placé d'abord en combat d'ouverture de la carte principale, Fares Ziab n'a pas tremblé, s'est imposé par décision unanime au terme de trois rounds intenses et maîtrisés. Grâce à cette cinquième victoire consécutive, le Français se rapproche encore un peu plus du top 15 de sa catégorie, les moins de 70 kilos. Et de son côté, Nassourdine Imavov, lui, est bien ancré dans le top 15, dans le top 5, même de sa catégorie, les moins de 84 kilos. Le Français numéro 5 affrontait le numéro 2, le Nigérian Israël Adesanya. Et le sniper français a réalisé la plus grande performance, on peut le dire, de l'histoire du MMA tricolore. Il a mis KO l'ancien champion au deuxième round et peut désormais prétendre à un combat pour la ceinture dans sa catégorie.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
L'événement sportif du week-end en Calédonie, c'est la Ryder Cup d'Eva 2025. Un tournoi de golf par équipe entre les broussards d'un côté et les sudistes de l'autre, Léo Fichou.
Oui, à l'image de la Ryder Cup qui oppose chaque année les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs golfeurs européens, le golf de Deva organise depuis hier matin une compétition entre les broussards, effectivement, qui représentent les clubs de Deva et de la Wengi, et les sudistes qui représentent, eux, les clubs de Dumbéa et de Tina. 10 hommes et 10 femmes par équipe pour un week-end de sport et de convivialité. Après une première journée de compétition hier, les golfeurs ont profité d'une soirée partagée avant de retourner dès ce matin, dans quelques minutes, aux alentours de 8h sur les greens. Je vous propose d'écouter Tony Raillard, directeur du golf de Deva.
L'idée de base, c'est de faire une compétition sportive, mais conviviale, et chaque match fait remporter un point à son équipe, et une égalité, un demi-point. Ce qui fait qu'on a 40 points en jeu. Donc la première équipe qui a atteint les 20 points et demi remporte l'événement. L'idée du week-end, c'était un peu ça. On aurait pu organiser ce type d'événement avec de l'élite, mais on n'aurait pas eu le même partage et la même convivialité. Ça aurait été beaucoup plus axé sport et résultats, alors que là, on sait qu'il va y avoir les deux. Donc effectivement, je pense qu'il y aura une petite jauge à avoir entre le côté sportif et le côté fête. On pourra faire le point à la fin du week-end.
À l'issue de la première journée de cette Ryder Cup Deva, ce sont les Broussards qui sont en tête. Ils mènent 11 points et demi à 8 points et demi.
Il est 7h passées de 25 minutes. On termine ce journal avec votre bulletin météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et nous avons déjà évoqué les conditions météo précédemment dans ce journal, avec un phénomène dépressionnaire qui est toujours suivi de près évidemment par les services de Météo France Nouvelle-Calédonie. On voit tout ça en détail avec vous, Nicolas, bonjour.
Bonjour Mickaël. Alors ce matin, quelques éclaircies résisteront quand même en début de matinée sur l'ouest, mais dans l'ensemble le ciel sera très nuageux à couvert sur la façade de Est et les Loyautés. Les précipitations deviendront fréquentes, parfois fortes et orageuses, notamment sur les régions nord. Sur l'ouest, quelques ondées seront possibles. Sur les Loyautés, le vent sera de secteur nord-est de 20 à 25 nœuds, avec des rafales à plus de 30 nœuds sur Lifou et Ouvéa, 10 à 15 nœuds sur Marais. Ailleurs, le vent sera d'est-sud-est. Sur l'ouest et le sud, il soufflera de 15 à 20 nœuds. Sur le nord-est, il soufflera entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 30 nœuds, voire autour de 25 nœuds avec des rafales voisines de 35 nœuds sur la pointe nord-est. Cet après-midi, le temps sera couvert. Sur l'ouest, de bonnes averses déborderont par endroits du relief. Sur la façade est et les Loyautés, les précipitations resteront fréquentes, parfois fortes et orageuses. D'est à est-sud-est, le vent soufflera autour de 20 nœuds, localement 20 à 25 nœuds, avec des rafales à plus de 30 nœuds sur le sud-ouest et les Loyautés, voire autour de 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds sur le nord-est. Les températures se maintiendront au-dessus des normales de saison, entre 29 et 33 degrés, Michael.